Nous sommes au Festival de la bande dessinée d'Angoulême avec Yves Sante. Bonjour.
Bonjour.
Comment ça se passe Angoulême pour vous cette année?
Ah ben cette année est une année particulièrement riche pour moi puisque j'ai deux albums qui sortent avec deux nouveaux partenaires et amis qui sont Laurent Véron pour Il s'appelait Petit Roux et Steve Cusor pour 5 branches de coton noir. Donc c'est assez riche en rencontres avec vos confrères de la presse et avec le public et c'est très agréable.
Le public, de quoi est-ce qu'il vous parle? Il vous parle de ces deux albums-là ou d'un peu tout sur votre carrière?
Ben, il me parle principalement de ces deux albums-là parce qu'ils sont un petit peu surpris. Ils ne m'attendaient peut-être pas à cet endroit-là puisque j'ai une réputation de « repreneur » entre guillemets puisque j'ai fait Blake Mortimer, Vorgal, 13, voilà. Chose que je revendique et que j'adore faire et que je veux continuer à faire. C'est, non seulement c'est un grand honneur, mais c'est un plaisir énorme d'enfant de pouvoir prolonger ses rêves. Moi, je me souviens, j'avais lu tous les Blake et Mortimer qui existaient en album quand j'avais, je sais pas, 13 ou 14 ans. Et je comprenais pas pourquoi il n'y avait pas de nouveau. Pareil pour Tintin, d'ailleurs. Je me disais, mais enfin, pourquoi ils en font pas un nouveau? Et puis un jour, on me propose de le faire, ce nouveau. C'est quand même génial. Donc, voilà, c'est un véritable plaisir. Mais c'est un plaisir qui est assorti de contraintes. Quand on fait une reprise, bah, les personnages existent déjà. Leurs caractères sont déjà façonnés par un autre auteur. Et le public veut retrouver ces personnages qu'il connaît, évidemment, avec ses caractéristiques qu'il connaît. Donc, il faut composer et parvenir à trouver son plaisir et son originalité à l'intérieur d'un cadre qui est prédéfini. C'est un sport que je pratique avec plaisir, je le dis, mais ici, ces deux scénarios, j'étais totalement libre. Dans les deux cas, bah, Petit Roux, ce n'est pas Spirou. Et dans le cas des Cinq Branches Coton Noir, c'est un récit de guerre, poursuite du premier drapeau américain. C'est un air libre où je suis effectivement de nouveau libre de créer les personnages que je veux, je les fais parler comme je veux, je leur donne les défauts que j'ai envie de leur donner, les qualités aussi. Et donc c'est une autre approche de la créativité, et ça c'est très agréable. Et apparemment, pour le public, c'était un peu une surprise. Enfin, bon, j'ai déjà fait La Vengeance du Comte Scarbeck et Krosinski il y a quelques années, qui était aussi un one-shot. Mais voilà, donc c'est un peu de ça qui me parle. Ah, on ne vous attendait pas là, ah, on ne vous attendait pas sur ce terrain. Ben, j'espère, le but d'un scénariste, c'est de surprendre.
Et au niveau du choix des dessinateurs pour chaque album, vous avez eu votre mot à dire ou vous avez eu des propositions et puis bah, ça a bien matché?
Alors ça dépend là aussi de chaque cas. En l'occurrence, pour Il s'appelait Petit Roux, c'est moi qui pensais à Laurent Véron, que je connaissais. J'ai été éditeur pendant 15 ans et je l'avais édité pour la série Odilon Verju, que j'aimais beaucoup. Bon. Et donc on se connaît depuis plus de 20 ans maintenant, et je trouvais qu'il avait un dessin qui était une sorte de condensé des grands anciens. Moi on met Franquin, Roba, Peillot, tout ça dans un entonnoir, et il sort une sorte aujourd'hui de Laurent Véron. On sent qu'il est habité par tous ces grands anciens. Et étrangement, il n'avait jamais travaillé chez Dupuis non plus. Bref, je l'appelle. Et il venait de lire en même, il lisait en même temps que moi le fameux livre La véritable histoire de Spirou, dans lequel j'avais trouvé l'anecdote d'où était partie mon idée de base. Anecdote que Rob Vell raconte, donc, quand on lui demande de créer graphiquement le personnage de Spirou, il se souvient de ses mousses de sonnerie qui avaient ce costume rouge à boutons dorés sur le paquebot transatlantique où lui était steward. Et il se souvient en particulier d'un de ses gamins qui était décédé en tombant accidentellement dans une cale. Bon, il raconte cette anecdote sans nous dire plus. Je ne sais pas comment s'appelait ce gamin. Et c'est marrant, j'étais ému par cette anecdote tragique. Et ça m'a fait penser un peu au soldat inconnu. Ce gamin ne saura jamais qu'il était à l'origine de la création d'un des plus grands mythes de la bande dessinée franco-belge. C'est quand même hallucinant. Et je trouvais que c'est une forme, tiens, et si on lui rendait une forme d'hommage en racontant son histoire, il allait falloir totalement réinventer. Donc j'en parle rapidement à Serge Honoré, qui est le directeur éditorial chez Dupuis, qui est très enthousiaste, qui me dit « Vas-y, tu es libre ». Je dis « Mais je te préviens, moi je ne sais pas faire de l'humour, donc ce ne sera pas du Spirou, il n'y aura pas de gag, hein, ça va être tragique. Enfin beau, j'espère, et aventureux et tout, mais ce ne sera pas rigolo, rigolo. C'est pas du Spirou, c'est à toi, c'est ton Petit Roux, vas-y, fais-le. » Et comme il était ravi aussi que Laurent ait envie de s'embarquer dans la fête, voilà, on est parti cette aventure avec vraiment... Un très chouette soutien de l'éditeur qui nous a laissé totalement libre. Et là, donc, le choix du dessinateur, pour revenir à la question initiale, c'était le mien. Pour les Cinq Branches Coton Noir, j'ai écrit le scénario en entier, comme toujours, parce que j'ai besoin de savoir ce qui se passe à la dernière page, avant de peaufiner ce que je mets à la première pour schématiser et de le faire lire à quelqu'un. Sinon, je ne suis pas à l'aise, je me dis, mais ils ne vont pas comprendre, ils ne sauront pas où je vais, etc. Ça me rassure moi-même. Donc, je fais tout à l'avance, quitte à retravailler en fonction de mes partenaires ensuite. Et je présente ça à quelques amis, confrères autour de moi. Et il y a un libraire bruxellois, Reynold Leclerc, qui me dit, tiens, mais ça t'ennuie si je l'envoie à Steve Cusor. Je dis, ah, Steve Cusor, bonne idée, pourquoi pas. On s'était croisés 2-3 fois, mais on ne se connaissait pas plus que ça. Enfin, je connaissais son travail, mais pas la personne. Ben, Reynold Leclerc envoie le scénario, Steve le lit, se montre enthousiaste, et donc on organise tout de suite une rencontre à Rennes, puisqu'il est breton, et ça match tout de suite, enfin ça colle entre nous, et donc on rediscute de l'histoire, parce que lui a aussi ses petites ses visions qu'il aimerait bien intégrer dans la chose, moi je m'adapte, etc. Et là aussi, ben, la collaboration a démarré, après il y a eu 4 ans de dessin, pour 5 branches de coton noir, donc il a fallu être patient, mais ça valait la peine. Pour moi, en tout cas.
Et dans ces cas-là, vous avez votre mot à dire ou vous les laissez vraiment complètement libres avec votre scénario?
Non, mon scénario est très, très directif. C'est-à-dire que je rentre des pages, vraiment, moi j'ai des descriptifs qui font parfois un tiers de page où je dis, ben voilà, les trois personnages sont à table, il y a la femme, il y a l'homme qui tient le micro, l'autre est là avec ses lunettes qui les tient comme ça, il y a des gens qui passent, ta caméra est là, tu fais comme ça, et le personnage A dit ceci, le personnage B dit cela. Après, je considère que c'est lui le réalisateur du film. Donc si lui me dit, bon, ben, ce serait quand même plus efficace si je mettais la caméra là, et qu'on faisait une petite contre... Ça, pour moi, il est totalement libre. Ce que j'essaie, c'est de lui donner une description la plus précise possible pour montrer que tout est cohérent, logique, juste. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est que si je veux, dans une page plus loin, renverser le verre de coca que j'ai devant moi sur la tête d'un important qui passe, il ne faut pas oublier de préciser qu'en case 1, le verre de coca doit déjà être là. Donc ça, je veille, quand je reçois les planches, à ce que tous les éléments qui doivent être en place soient bien en place. Mais pour le reste, la partie artistique de l'image, ça c'est lui qui gère avec toutes les informations que je lui donne. Et en général, ça se passe bien. Il y a des auteurs qui partent, prennent le scénario, puis hop, salut, j'en fais ce que je veux. Malheureusement, à l'arrivée, ça donne pas toujours le meilleur résultat. Parce qu'il peut pas deviner quelles étaient mes intentions. Ou alors il devrait me demander à chaque fois, attends, tu voulais bien, qu'est-ce que tu voulais faire en faisant ça ou ça ou ça. On peut pas tout expliquer, sinon je passerais 2 ans à discuter avec lui. C'est pour ça qu'on écrit. Donc s'il s'écarte trop de l'écriture, à un moment donné, il se dit « Ah zut By Jove, pas le sang bleu !» Voilà pourquoi il avait fait cela. Alors il doit recommencer parce qu'il n'avait pas tenu compte de l'injonction du départ. Donc c'est risque et péril s'il fait ça.
Alors du coup, on va parler un peu plus de Petit Roux. Vous avez eu donc une carte blanche pour faire un Spirou 2 dans la collection. Du coup, vous avez choisi d'en faire pas un Spirou. Quelque chose d'original, mais comme vous le disiez tout à l'heure, avec une anecdote réelle à la base, une fiction historique, on va dire.
C'est une fiction, ça c'est sûr, qui repose sur une anecdote historique. Ça c'est tout à fait juste. Maintenant, ce n'est pas du tout un Spirou 2, il n'est pas dans la collection Spirou 2. Non. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'agit pas de Spirou et ça ne me serait jamais venu à l'idée parce que, comme je l'expliquais tout à l'heure, je suis incapable de faire de l'humour. J'adore en lire, j'aime bien Astérix, j'ai adoré Gottlieb, tout ce que vous voulez, Tillieu, tout ça. Mais faire de l'humour, c'est un genre très particulier, il faut avoir un don pour ça que je n'ai pas. Donc voilà. Et comme Spirou est une série plutôt semi-réalistico-humoristique, il faut quand même des gags, des fantasio et des choses comme ça. J'y aurais jamais pensé, franchement, parce que je me suis pas senti à l'aise. Et c'est bien pour ça que quand j'ai eu l'idée de raconter l'histoire de ce groom qui va inspirer Rob Veil pour faire Spirou, j'ai bien précisé à Dupuis tout de suite, attention, ce sera pas drôle, hein, ça je sais pas faire, c'est pas du Spirou. Justement, ceux qui font du Spirou, ils doivent respecter un certain nombre de codes d'historique, comme moi sur Blake et Mortimer ou sur autre chose. Et ça c'est pour tout le monde pareil. Mais ces codes-là, j'aurais pas pu les suivre. Donc j'ai prévenu dès le départ. Voilà, ils savaient à quoi s'attendre et ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, ce ne sera pas dans la collection Spirou 2. Mais même si c'est assimilé, hein, on pense tout de suite à Spirou en le voyant, ne fût-ce qu'en voyant la couverture avec ce gros rouge à boutons dorés. Et c'est le but d'ailleurs, si je l'ai appelé Petit Roux, c'est pour qu'il y ait un cousinage sonore avec Spirou, bien évidemment. Donc voilà, on revendique le lien entre les deux personnages, mais ce n'est pas celui-là. D'ailleurs, un héros ne meurt jamais. Malheureusement, mon petit roux, lui, n'échappe pas à la fin du récit.
C'est un spoiler. C'est pas complètement clair, même si évidemment, on veut pas. On se doute bien qu'il est décédé. C'est pas si clair que ça. Est-ce que c'est voulu d'avoir laissé une ambiguïté ou pas?
Si voulu, ce serait alors un acte manqué, je ne sais pas. Mais moi, je me souviens qu'en écrivant la scène finale, il y avait le moment où la petite Marie, qui écoute le récit d'Oncle Paul, dit Pierrot, il n'est pas mort, dit Oncle Paul, il n'est pas mort. Et là, je me dis, mais l'oncle Paul ne peut pas lui dire le soir de Noël. Oh ben si, hein, il s'est écrasé, plat comme une galette bretonne. Et donc, on le voit qui hésite un peu, qui dit, et rebondit, sans dire qu'il n'est pas mort, mais il lui dit, non, il est ailleurs, il est dans un autre, une manière sauf de faire passer la mauvaise nouvelle. Dans ma tête, c'était ça. Mais après, plusieurs personnes m'ont effectivement dit, ah, moi, j'étais pas sûr d'avoir compris qu'il était mort ou pas. Donc, j'étais un peu embêté, parce que dans ma tête... Ben oui, l'anecdote réelle, c'est ça, il tombe, c'est un accident. Moi, j'ai voulu faire cet accident une mort héroïque, puisqu'il le fait en essayant de rattraper ce flacon pour sauver la petite Juliette. Donc, voilà, je voulais magnifier ce moment de sacrifice, mais c'est un sacrifice ultime, à savoir qu'il ne remontera pas de la cale, quoi.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que, bon, effectivement, c'est pas un Spirou, et pourtant, il y a... Toute la patte, toutes les touches qu'on pouvait trouver dans Spirou ou dans le journal de Spirou. Et ça, c'est volontaire, je suppose, hein, d'avoir rajouté les histoires de l'oncle Paul, d'avoir mis un petit personnage qui ressemble un peu quand même à Fantasio. Y a plein de petites choses comme ça qui se passent, y compris la narration qui, certes, n'est pas drôle. Mais le côté un peu enquête de médicaments qui disparaissent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis en fait, il y a un rebondissement. Mais ça, c'est très Spirou quand même.
Ah oui, de toute façon, il fallait jouer avec certains codes. On n'allait pas tous les casser, sinon on n'allait pas en faire un air libre non plus. Enfin, je veux dire, ça devait rester grand public. Enfin, air libre et grand public aussi. Mais enfin, on se comprend. Ça devait rester très jeunesse, accessible aux jeunes aussi. Mais on s'est amusé à jouer, évidemment, avec les codes de la série. Mais, et j'espère que là aussi, j'ai réussi le coup, mais ce sera à vous, à d'autres, de me le dire. Ce que j'ai essayé de faire aussi, c'est que celui, le gamin, imaginons qu'il tombe sur l'album, qu'il le lit, et qu'il n'a pas tous les référents historiques, il passe une bonne histoire, et ce n'est pas grave s'il ne comprend pas que le petit crasseux de la cale avec sa brosse, il fait référence à Poil Dur, qui est le petit boxeur dans une toute première histoire de Franquin. Il y a un petit Goscinny qui passe en agitant sa cloche qui dit « Tous les visiteurs à terre ». Goscinny a écrit un livre sur ses expériences de traversée transatlantique qui s'appelait « Tous les visiteurs à terre ». Donc on a mis comme ça des petites références pour les fans ou les ultra-connaisseurs de certaines choses. Mais celui qui ne les comprend pas, normalement, ça ne doit pas arrêter son plaisir de lecture une seconde. Sinon, c'est raté. Moi, je n'aime pas du tout quand je lis un livre, je vois un film qui est... À un moment donné, on se rend compte que l'auteur a voulu mettre un clin d'œil, mais qu'on ne comprend pas. On se sent exclu. C'est très désagréable parce qu'on est sorti du récit et on sent que c'est une private joke. Alors je me dis, mais je suis vexé, pourquoi moi je ne peux pas en profiter? Donc, ce qu'il faut, c'est y aller toujours à petite dose pour que personne ne le remarque. Mais les fans de Spirou, vous avez raison, auront remarqué un certain nombre de clins d'œil bien appuyés.
Et est-ce que les références au transatlantique... font référence aussi au Titanic ou pas?
Pas du tout, là, pour le coup. Pour moi, Titanic, c'est un film catastrophe. Ici, c'est un film de genre, donc, avec une romance. Ici, c'est quand même différent. Ils ne sont pas en âge d'avoir une vraie romance. C'est une amourette de 12-13 ans. Entre les deux personnages, je comprends qu'on puisse faire un parallèle. Mais en l'occurrence, moi, ma référence, on va dire, cinématographique, c'était La légende du pianiste sur l'océan. Un cinéaste italien, une histoire magnifique où justement des marins à bord d'un transatlantique recueillent un bébé, personne qui était abandonné sur le paquebot, personne ne sait d'où il vient, et ils vont l'élever et il va vivre sur ce paquebot au travers des traversées. Et c'est un film, moi, qui m'avait énormément touché, mais souvent, alors je ne nie pas que je l'ai vu, que donc il y a une influence, mais je n'ai pas été le revoir. Je trouve que ça c'est une erreur, parce que là on a le risque de se dire, oh, je vais faire une scène comme ci ou comme ça. Donc je me suis imprégné de plein de choses, comme tout le monde, de cinéma, de littérature, mais au moment où on écrit, on fait appel à ses souvenirs, mais des souvenirs diffus. Il ne faut pas les voir de trop près, parce que sinon, ça biaise la créativité, quoi. Mais en tout cas, dans mon cas, c'est plus la légende du pianiste sur l'océan, ou la légende de 1900, il y en a qui disent comme ça, qui est plus proche de ce que je voulais faire, sur le plan émotion, en tout cas.
Nous venons d'être rejoints par Laurent Véron, donc dessinateur sur Petit Roux. Vous, votre influence de la part du monde de Spirou sur la réalisation de cet ouvrage se situe à quel endroit ?
Eh bien justement, comme c'est pas Spirou, personnage de BD, ça m'arrangeait parce que j'avais pas, on a toujours des influences, ça concerne, mais j'en avais très peu finalement. J'ai essayé d'être le plus personnel possible, le plus libre possible. Et comme on était donc sur ce personnage de Petit Roux, ayant existé, mais dont on ne sait rien, on ne saura rien, ça me laissait une liberté. J'avais pas Spirou, personnage de BD, dans la tête. Yves Sand m'aurait proposé de faire un Spirou, Spirou part, par exemple, je suis pas sûr que j'aurais accepté. J'avais pas justement toutes ces influences, enfin voilà, que j'ai quand même, parce que c'est ce qui m'a donné envie de faire la BD, Franquin et compagnie. Mais là, je me suis senti beaucoup plus libre, et comme on est sur un récit, une sorte de drame, quoi, un truc comme ça, donc un dessin plus réaliste. Moins, je voulais être moins théâtral aussi dans les attitudes, moins caricatural. Donc oui, beaucoup moins d'influence. Alors inconsciente un peu, il y en a, mais voilà, je me sentais beaucoup plus Véron qui cherche autre chose et qui essaye d'être de coller vraiment à l'ambiance et au récit, quoi.
Alors, on a parlé de fiction historique tout à l'heure. Est-ce que ça a demandé un travail de recherche important au niveau des décors ou des costumes d'époque ?
Alors évidemment, il y a une documentation que Yves m'a fournie dès le début avec le scénario, des photos, surtout le bateau, même les passagers, des choses, pas mal de choses. La majorité de ma doc venait de Yves. Le scénariste et ami Yann m'a fourni aussi un bouquin sur les paquebots qui m'a bien servi. Et puis moi, sur certains détails, je suis allé chercher aussi sur Internet, mais des fois, on ne trouve pas. Donc, il y a certains lieux, surtout dans le paquebot, par exemple, la salle des gouvernails où il y a un sabotage. Bon, ben, j'ai rien trouvé, j'ai inventé. Là, on invente. Je mets une roue dentée, des boulons, un machin, des trucs métalliques. Et voilà, on se débrouille. Après, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà dit, mais ce n'est pas un récit documentaire historique. Moi, mon souhait, c'est d'essayer de donner l'impression au lecteur que c'est crédible, que c'est cohérent et qu'il peut se trouver sur les lieux, de l'emmener sur ces lieux. C'est donner cette impression-là. Alors, sur la silhouette du bateau, sur les cabines, la salle de restaurant, là, on avait des photos, ça va, on peut... Mais un vrai spécialiste des bateaux, il va dire, ben, c'est pas tout à fait comme ça, dans la salle des chaînes d'encre, enfin voilà. Mais on s'en fout, on n'est pas sur ce... Donc oui, quand même, la documentation a une grosse importance. Moi, souvent, ce que je fais, j'utilise plusieurs photos pour une même case, par exemple, parce que je peux prendre un morceau de là, un morceau de là, je recadre ça à ma façon, voilà.
D'où le travail dont on parlait de scénariste et après réalisateur.
Oui. Ben après avec Yves, c'est cool, quoi, parce que non, mais c'est vrai, parce que par exemple le scénario original faisait 70 planches et l'album en fait 76. Donc par exemple, il y a une planche, je trouvais, c'est un exemple, je trouvais qu'elle était trop dense. Il fallait en plus il fallait des cases un peu grandes. C'est quand Petit Roux saute de l'hydravion au tout début là, qu'il est repéré. Il me fallait un peu de place et cette planche était hyper dense. J'ai dit tiens, je vais la dédoubler. Ça sera plus lisible et je pourrais mieux exprimer le côté acrobatique de Petit Roux. Alors évidemment, si elle est dédoublée, ça change tout au niveau de la succession des pages. Et Yves essaye de mettre en page de droite un truc ou une case qui donne envie de tourner la page. Donc après, il faut rajouter une autre page pour pouvoir retrouver. Voilà, je peux faire des choses comme ça. En accord avec Yves, voilà, c'est assez cool. J'ai rajouté une petite séquence dans l'album. J'avais envie, enfin, un petit truc, un peu d'émotion entre les personnages. Bon, j'ai rajouté trois strips. Donc ça aussi, ça décale tout par rapport. Mais donc après, je rattrape. Mais ça, ça va bien parce que dès le début avec Yves, j'ai dit moi ça peut arriver que je peux intervenir un peu, alors pas sur le scénario, l'histoire construite, tout ça, mais sur le découpage, sur la mise en scène, des choses comme ça. Et bon, voilà, ça se passe bien. Et pareil, moi quand j'ai fini les plans, je lui envoie. Je lui dis s'il y a des trucs qui vont pas, enfin voilà, et c'est arrivé qu'il m'ait fait dire oui, là, des questions de logique, ou des questions de lecture, de personnages, voilà. Le but c'est de faire le meilleur album possible, tant qu'il n'est pas imprimé, il n'est pas fini, voilà.
Et donc c'était plus confortable en étant chez Dupuis de faire un 76 pages plutôt que de sortir ça en deux tomes de 48 pages. Vous n'êtes même pas posé la question en fait, pour vous c'était une histoire, un récit complet qu'il fallait avoir du début jusqu'à la fin.
Oui, oui, c'était un one shot, c'était un récit, ça doit se lire comme un conte de Noël. L'oncle Paul n'allait pas s'arrêter et dire « revenez à Noël l'année prochaine pour que je vous raconte la fin ». Donc ça devait être... En une fois, oui, c'était un one-shot, c'est un roman, c'est un film, c'est, je sais pas. Mais en tout cas, pour nous, c'était inenvisageable d'en faire de couper cette histoire en deux, ça n'aurait pas eu de sens, je crois.
Je crois que ça, c'est même pas, c'est jamais venu sur la table cette discussion avec Dupuis. C'était rien, ils ont même pas. Et puis moi, quand j'ai commencé à rajouter des pages, bon, je les ai avertis, j'ai dit voilà, parce que ça change les cahiers qui est à l'intérieur. À un moment donné. Je me suis dit, bon, ben, là, on a décidé du nombre de cahiers qu'il y a dans l'album par rapport à l'imprimeur, tout ça. Donc, je me dis, là je ne peux plus rajouter. Il y a un moment, il faut. Voilà. Mais, bon, avec Dupuis, oui, ça s'est très bien passé. C'était aucun problème.
On aurait voulu rajouter 30 pages qui nous auraient probablement rien dit. Ou il y en aurait eu 22 moins qui nous auraient été tout aussi contents. Enfin, on était libres sur tous les aspects. Et c'était vraiment un des plaisirs de cette aventure-là aussi.
Est-ce qu'on peut dire que le mouvement est primordial dans cette bande dessinée ?
Enfin, pour moi, c'est très important. Les personnages, il faut qu'ils soient vivants. Faut que... Alors, ce qui est bien, enfin, ce que j'ai aimé aussi sur cet album, c'est que moi, comme je dessine un peu plus réaliste, je voulais aussi être plus subtil dans les attitudes, les mouvements des personnages. Avant, j'étais dans une bande dessinée comment dire ? Qui se souvenait des conseils des grands maîtres, des robots entre guillemets, puisque j'ai travaillé avec lui. Il me disait toujours, sur certains gestes, exagère, un mec qui tend le doigt, il faut allonger le bras un peu pour vraiment montrer un truc. Les étonnements, on exagère un peu tout ça, un peu théâtral, un peu caricatural. Et je voulais revenir de ça, enfin je voulais être un peu plus naturel dans les attitudes. Donc j'ai fait pas mal de croquis, de recherches d'attitudes, de mouvements, pour être un peu plus, oui, naturel. Je fais pas mal, enfin, j'ai une période, je fais pas mal de croquis après nature. J'ai un petit carnet sur moi quand je sors en ville ou on boit un coup, je croque un peu les gens et tout. Et c'est un peu le but, une espèce de palier dans ma carrière, entre guillemets, de dessinateur, d'être un peu plus, oui, naturel. Naturel, que mes personnages bougent d'une façon naturelle. Alors, en même temps, il faut pas être trop, gommer le mouvement. Mais trouver la bonne solution entre un truc trop théâtral, trop démonstratif, puis quelque chose qui ne le soit pas assez, que le lecteur voit pas tout de suite ce qui se passe. Cette recherche graphique, enfin de dessin, m'intéresse beaucoup. Donc, mais c'est vrai que le mouvement, les personnages, il faut qu'ils bougent. Et puis je tiens aussi beaucoup à ce que chaque personnage soit bien distinct l'un de l'autre. Alors, dans le scénario de livre, c'est super, chaque personnage, même secondaire, est bien est défini, il en met même... Il met beaucoup de détails qui ne seront pas forcément utilisés dans les planches, mais moi j'aime bien parce que ça caractérise bien les personnages et j'aime bien les différencier tant au niveau du visage que de la physionomie et la façon de bouger aussi. Donc au niveau dessin, c'est vraiment des choses qui m'intéressent à travailler. Et puis le mouvement, oui, il faut que ça bouge, faut que ça soit vivant, quoi. Nous, tout le monde bouge dans la vie, donc voilà. En plus, Pierrot, acrobate, machin, la mer, la tempête, ça bouge, le bateau qui tangue.
Enfin, côté scénario, c'était une gageure aussi, parce que, par définition, un paquebot, pour moi, ça évoque la lenteur. Quelque chose de lourd, de pesant, des mouvements lents, et une traversée qui, à l'époque, met quand même 7 jours. Donc il fallait trouver un moyen de faire une histoire où il monte tout le temps de la cave au grenier, on va dire, pour que ça bouge, qu'il y ait quand même des bagarres, qu'il y ait des trucs, des cross-poursuites. qu'il y ait une tempête pour qu'ils puissent dessiner les cases. De plus, comme ça, on a l'impression que ça bouge. Et un petit détail qui est lié à votre question, c'est, j'ai situé l'histoire en 1929 parce que c'est une des périodes où le paquebot Île-de-France avait effectivement ce porte-avions qui servait à gagner une journée pour la livraison des colis postaux, et ce qui était une source de revenus non négligeable pour la compagnie et qui était un avantage sur la concurrence. Or, ça n'a pas duré longtemps, à peine 2 ou 3 ans, parce que Petit Roux, on ne sait pas quand, Rob Bell ne nous dit pas quand il l'a rencontré et quand il est décédé. Je ne sais pas si c'était, tout ce qu'on sait, c'est que c'était pendant les années où Rob Bell était steward, donc j'avais un peu le choix. Et si on a pris cette année-là, c'est uniquement, enfin, pour l'hydravion, parce qu'on en avait besoin, parce que là aussi, on peut sortir du huis clos et recréer quelque chose où il y a du mouvement, de l'action, etc. Parce qu'un paquebot, c'est vraiment, enfin bon... Heureusement, un paquebot, c'est quand même très grand, donc il y a moyen de faire pas mal de choses. Et je suis ravi que Rob Bell nous ait pas raconté l'histoire d'un gamin qui était mort dans un train, parce que là, on était mal. Quoi. C'est 60 planches dans le train, on s'en sortait pas, je crois.
En parlant de l'hydravion, justement, on parlait de documentation tout à l'heure. Yves m'avait fourni quelques photos, voilà. Mais j'avais des photos que de la silhouette, enfin que... Et à un moment, ils sont dans l'hydravion, dans le cockpit. Impossible de trouver. Je suis sûr qu'un spécialiste d'avion me dirait, mais c'était pas du tout comme ça. Donc j'ai inventé. Enfin, ils sont dans 2 cockpits de l'avion. Là, voilà. J'ai un moment, j'ai dit, je fais quoi, quoi. Est-ce que je passe un temps fou à chercher à contacter un spécialiste machin, ou est-ce que allez, j'y vais. Voilà. Là, il y avait vraiment un trou sur le cockpit de cet avion. Je sais pas comment j'ai fait. Je sais toujours pas comment c'est fait. Voilà, inventé.
Est-ce que vous auriez un album chacun à nous conseiller, un album récent, parmi la production actuelle?
Un album récent? Ah, moi, sans hésiter, je vais vous parler du dernier Cosset, alors Calypso. Moi, je suis un fan inconditionnel de Bernard depuis toujours, enfin depuis que je suis ado en tout cas, parce que je trouve qu'il est, c'est un grand scénariste en plus d'un grand dessinateur ou coloriste. Et j'ai découvert qu'on pouvait faire avec la BD autre chose que des strips quand je suis tombé sur Jonathan quand j'étais tout gamin. Et voilà, et son dernier, eh bien, à l'image de lui-même, c'est une histoire très tendre, pleine de personnages qu'on aurait envie de rencontrer, ils sont vrais, ils sont très bien détaillés aussi. Moi, j'ai beaucoup appris on apprend toujours en lisant ses aînés, et j'ai beaucoup appris en lisant les albums de Bernard, dont je suis ravi pour lui qu'il ait reçu ce grand prix cette année-ci. Donc voilà, Calypso, achetez-le.
On peut dire 2 ou que c'est vraiment qu'un... Moi, je viens de découvrir, je ne suis pas un lecteur de comics américains, voilà, ce n'est pas ma culture, tout ça. J'aime la BD américaine, mais des grands anciens, Herriman, Walt Kelly, des gens comme ça, Canif et compagnie. Mais voilà, je ne suis pas un lecteur de comics. Et j'ai découvert il n'y a pas longtemps, mais c'est le dessin qui m'a fasciné, un dessinateur qui s'appelle Sean Murphy. Et sa dernière production, c'est Tokyo Ghost. Et c'est le dessin qui m'a... J'avais lu un bouquin qui est Punk Rock Jésus ou un truc comme ça, où l'histoire était pas mal, mais ça m'avait pas flashé. Et la progression entre Punk Rock Jésus, qui a quelques années, et puis Tokyo Ghost, qui est sorti en 2016 ou en 2017. Waouh, j'ai acheté la version couleur, la version noir et blanc. Je me suis même acheté une planche originale, ça m'a fasciné. En plus, c'est le genre d'histoire, c'est pas mon truc. Et je suis rentré dans une science-fiction un peu apocalyptique, comme ça. Voilà, Tokyo Ghost... Urban Comics, Sean Murphy, le scénariste, excusez-moi, je ne sais plus son nom, j'ai tellement, enfin voilà, et j'ai adoré ça. Et sur une BD franco-belge, voilà, truc, bon, c'est un auteur qui a un peu du succès, on en parle un peu médiatique, mais je trouve que c'est quand même bien foutu, c'est Bastien Vivès qui a sorti Une Sœur, là, il y a quelques mois, enfin je ne sais plus quand c'était. C'est vachement bien foutu, avec peu de moyens, il arrive à faire ressentir. Des émotions à ces personnages. Un exemple, il y a des personnages, des fois, sur une case, ils ne dessinent même pas les yeux. Et ça marche. Il m'a un peu épaté là-dessus, ça marche. C'est... Alors, l'histoire n'est pas forcément le truc qui m'a fait décoller, mais c'est bien fait, quoi. C'est au niveau dessin, mise en scène, il y a l'histoire d'un ado et d'une jeune fille, enfin un peu plus âgée que lui. Il y a des attitudes. À un moment, elle est sur la plage, elle tape sur son iPhone, c'est comme une ado, quoi. Avec très peu d'effets, ça fonctionne vachement bien. Enfin, voilà, Une Sœur, c'est chez Casterman, je crois, Bastien Vivès.
Je vais vous proposer 5 objets et vous en prenez un parmi les 5. Vous avez le choix entre les lunettes de Clark Kent, le panier du petit chaperon rouge, les chaussures de Marty McFly, le violon de Sherlock Holmes ou le chapeau de Indiana Jones. Vous prenez quoi?
Moi, je prends les lunettes parce que, pour des raisons évidentes, c'est que sans mes lunettes, j'ai de la peine à conduire, j'ai de la peine à voir de loin, donc voilà.
C'est très simple. Moi, je prendrais le chapeau d'Indiana Jones parce que j'ai un chapeau qui n'est pas tout à fait pareil, mais dont je me sers quand je fais un peu de photo animalière sur le côté. Et quand je vais, ça m'est arrivé de faire quelques safaris, et je pars en safari là bientôt. Et j'ai un chapeau un peu comme ça pour prendre des photos, ça, on est à l'ombre, voilà, c'est... Voilà.
Prendre de l'eau dans la rivière.
Ou prendre de l'eau dans... Voilà, le chapeau d'Indiana Jones.
Un mot que vous souhaiteriez ajouter?
Une année pour moi de retour à Angoulême qui me réjouit puisque l'accueil de notre album est grand. Et voilà, ça fait plaisir de voir les gens qui ont pris du plaisir. Donc, moi, je suis très content d'être venu pour ça.
Moi, j'utiliserais peut-être le mot palier, c'est-à-dire que je suis à un moment de ma carrière, entre guillemets, j'aime pas ce mot, enfin voilà, de ma vie de dessinateur de BD, où il se passe quelque chose. De temps en temps, il y a des paliers comme ça, on passe à autre chose. Et avec le projet d'Yves, ça a déclenché quelque chose, une façon de voir les choses différentes, de dessiner différemment, et qui débouche petit à petit sur l'envie et la motivation, pourquoi pas, de certaines velléités scénaristiques de ma part. Il m'est venu des idées, et donc voilà, un palier dans ma vie de dessinateur.
Merci. Merci.